Le journal, Hélène Roussel, bonjour.
Bonjour. La souffrance au travail, comment faire si même les garde-fous vont mal? Les inspecteurs du travail au bord de craquer. Rencontre avec la ministre aujourd'hui, reportage au début de ce journal et on y reviendra aussi avec votre invité à 8h20.
Frédéric oui Mécano. Hélène, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité du grand entretien de la matinale. Que pense-t-il des réformes des retraites et de l'assurance chômage, des plans sociaux et de la désindustrialisation, de cette mobilisation des inspecteurs du travail? Posez vos questions à Philippe Martinez, appelez-nous au 01 45 24 7000, écrivez-nous sur franceinter.fr.
Dans l'actualité encore, Strasbourg, les eurodéputés vont-ils valider la conservatrice Ursula von der Leyen à la tête de la commission? Rien n'est moins sûr. Grosse journée pour François de Rugy face aux parlementaires cet après-midi. La French Touch fait flop, la société de production de Luc Besson prend l'eau, mais les guinguettes, elles tiennent le coup, un peu de musette à la fin du journal.
France Inter.
Fléau ignoré malgré les victimes, les accidents du travail en France. 10 morts par semaine selon une enquête du journal Le Monde. Et encore, les statistiques ne prennent en compte que les salariés du secteur privé. Un monde où les garde-fous eux-mêmes vont mal. Les inspecteurs du travail en première ligne dans la lutte contre les accidents, mais pas seulement, contre les licenciements abusifs ou encore les emplois illégaux. Ils sont 2000 au total. Les syndicats signalent plusieurs tentatives de suicide cette année et les mouvements de protestation spontanée se multiplient un peu partout, comme ici dans l'Essonne où s'est rendue Claire Chaudière.
Moins d'inspecteurs du travail en poste pour des missions toujours plus nombreuses. La situation est progressivement devenue intenable, s'indigne Marie, inspectrice en Essonne, dont le métier est justement d'être sollicitée par des salariés en difficulté.
Je n'y arrive plus et je vous dirais même que certains agents sont dans une telle souffrance que recevoir des personnes en souffrance, ça devient très difficile. Parfois, je passe ma matinée à trembler parce que je ne sais pas par quoi commencer. Moi, il m'est arrivé d'aller dire au revoir à des collègues et de les trouver en pleurs parce qu'elles ne s'en sortent pas.
Car depuis plusieurs mois, plusieurs années, parfois ce sont des secteurs géographiques entiers qui sont vacants. Ce qui alourdit la tâche des collègues restants, explique Franck, Anna et Sophie parmi les inspecteurs mobilisés. Un petit groupe qui, depuis le 20 juin dernier, refuse systématiquement certains dossiers.
On nous dit, vous priorisez, vous faites ce que vous pouvez. Ça devient quand même critique.
On est déjà en train d'écrémer l'urgence de l'urgence. Traiter les accidents du travail graves, les cas de harcèlement moral.
Mais ça peut être aussi, le salarié dit, on a un pont élévateur qui risque de nous tomber sur la tête.
Résultat, estiment ces inspecteurs, des salariés moins protégés alors même que de nouveaux objectifs sont sans cesse affichés.
Les objectifs en matière de travail égal et d'égalité professionnelle, malheureusement, ils passent à la trappe. C'est juste pas possible.
Autant de questions qui seront posées tout à l'heure à la ministre du Travail et cela alors que la fonction publique dans son ensemble s'apprête à connaître d'importantes réorganisations.
Au reportage de Claire Chaudière, les syndicats des inspecteurs du travail doivent être reçus tout à l'heure chez la ministre Muriel Pénicaud. En plein malaise, il s'agit d'une discussion sur la réorganisation des effectifs. Dans le monde du travail encore, fin de partie pour Altifor, l'entreprise franco-belge, un temps pressentie comme la sauveuse de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord, sombre à son tour, en cessation de paiement, en redressement judiciaire, l'avenir de ses 1500 salariés en suspens.
France Inter, il est 8h03, le vote de tous les dangers aujourd'hui à Strasbourg.
Le Parlement européen va-t-il valider ce soir la candidature de la ministre allemande Ursula von der Leyen pour prendre la tête de la commission? Représentante de la CDU, centriste libérale, choisie par Angela Merkel et Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen est loin de faire l'unanimité au sein des Européens et ce sont eux qui ont les cartes en main aujourd'hui. Johanna Hochstein est à Strasbourg pour France Inter.
Les écologistes ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils voteront contre la candidate allemande, Yannick Jadot, eurodéputé français.
Tout pêche dans ce processus qui a été un véritable déni de démocratie puisque rien du scrutin du 26 mai n'a été retenu à la fois le signal écolo, la volonté évidemment de respecter le Parlement européen et ses candidats, mais surtout aujourd'hui ce qui pêche c'est le programme.
Même son de cloche du côté du socialiste belge Marc Tarabella qui n'a pas été convaincu par l'audition d'Ursula von der Leyen la semaine dernière devant le Parlement européen.
Comment on fait face aux migrations? La lutte contre la fraude fiscale, réponse évasive. Je ne peux plus accepter de voter sur de simples promesses, il faut un vrai programme.
Les députés de droite, en revanche, qui sont majoritaires au sein de l'hémicycle, soutiennent ouvertement la candidature de la ministre allemande, François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains.
C'est une personnalité politique de premier plan qui est très à l'écoute, mais qui parle aussi parfaitement l'anglais, le français. Elle est francophone, pour nous c'est un point important.
Mais l'issue du vote dépendra aussi de la prestation d'Ursula von der Leyen ce matin devant le Parlement. Elle devra répondre pendant plus de 3 heures aux questions des eurodéputés. Johanna Hochstein, France Inter, à Strasbourg.
Et ironie du sort, Ursula von der Leyen pourrait bien avoir besoin des voix europhobes pour passer. Le Hongrois Viktor Orban, par exemple, apprécie, dit-on beaucoup, cette femme catholique, mère de 7 enfants. Un rejet de la candidate, en tout cas, repousserait le vote à septembre et replongerait l'Europe dans la crise. Et cette Europe mangera-t-elle du poulet aux hormones ou du soja OGM? C'est l'une des grandes questions du CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada, que l'Assemblée nationale en France doit ratifier demain. Les risques sanitaires sont-ils réels? Élément de réponse avec Philippe Lefebvre.
Tout d'abord, sur les importations de viande de bœuf, on imagine mal que dans les prochaines années, l'Europe soit envahie par de la viande bovine en provenance du Canada, pays qui n'utilise aujourd'hui que 2% du quota accordé par le CETA. Cela a deux raisons. La majorité des éleveurs canadiens utilisent des hormones de croissance ou des antibiotiques comme activateurs de croissance. Or, ces pratiques sont interdites en Europe. Et puis au Canada, seuls 36 des 70 000 fermes du pays présentent des normes équivalentes à celles de l'Union européenne. En revanche, l'Europe devrait laisser rentrer poulets et porcs nourris avec des protéines animales transformées, en clair, des farines animales. Alors cela peut paraître choquant quand on se souvient de la crise de la vache folle de 1996 liée à un problème de chauffage des farines animales. Aujourd'hui, ce risque n'existerait plus selon des experts français, mais se posera sans doute le problème de l'acceptabilité par les consommateurs. Enfin, au niveau des contrôles, même si le principe du CETA est celui de la confiance, les postes d'inspection frontaliers, notamment dans les ports français, devraient encore contrôler la majeure partie des viandes importées du Canada.
À propos de viande encore, des tranches de jambon à 44 euros le kilo, tout est devenu cher dans le cochon. Mais que se passe-t-il? Eh bien, l'explication vient de l'autre bout de la terre. La peste porcine a décimé les élevages en Chine, qui vient donc acheter son porc en France. Résultat, les exportations dopées, le cours du porc grimpé et pas qu'un peu. La hausse est de 24% en 6 mois.
Et après les révélations sur ces somptueux dîners aux frais des contribuables, François de Rugy se retrouve sur le grill.
À l'époque président de l'Assemblée nationale, il affirme que c'était des dîners professionnels, informels. Mais le ministre de l'écologie va devoir convaincre aujourd'hui les députés. Question au gouvernement cet après-midi. De Belgrade en Serbie, où il était en déplacement hier, Emmanuel Macron, sans apporter de soutien direct à son ministre, demande la lumière sur cette affaire.
J'ai demandé au Premier ministre, justement, d'apporter toute la clarté. Et moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense, et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise deux choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les dix petits nègres. Bon. Donc, soyons clairs, je souhaite que chacun puisse être respecté, je souhaite que les principes que j'ai posés soient respectés, et j'ai demandé au Premier ministre de procéder en ce sens. Et donc, des propositions me seront faites, instruites par les faits.
Emmanuel Macron avec Élise Delève, le fondateur de Mediapart, le site qui a sorti l'affaire, a réagi dans la foulée, déploré que le chef de l'État assimile à de la délation le travail légitime d'information de la presse. Décidément, la culture démocratique a déserté cette présidence, tweet hier soir Edoui Plenel. Décidément, la journée de François de Rugy sera longue, il doit aussi se rendre devant les sénateurs cet après-midi pour défendre son projet de loi énergie et climat qui a déjà un goût trop peu pour les associations. Hasard du calendrier, voici une nouvelle expertise de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire et environnementale, sur la qualité de l'air. Les experts ont étudié à la loupe les particules fines et ultra fines et les preuves sont bien là, la pollution tue, jusqu'à 48 000 morts prématurées par an. Mais maintenant, que faire? Valérie Pernelet-Joly, chef de l'unité d'évaluation, a testé plusieurs solutions avec son équipe.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé, on a simulé différents scénarios de composition du parc automobile. On n'a pas modifié le volume de trafic, mais on a fait varier les technologies. C'est-à-dire, si je généralise le filtre à particules sur l'ensemble des véhicules légers diesel, si je mets plus de véhicules essence que de véhicules diesel, ou si je fais une promotion des véhicules électriques, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact sur la pollution atmosphérique? Ces trois scénarios montrent qu'il y a des évolutions favorables de la qualité de l'air ambiant, mais ces évolutions technologiques, à elles seules, restent insuffisantes au niveau des agglomérations pour éviter finalement des dépassements des valeurs guides actuelles de l'OMS. Pour vraiment réduire l'impact du trafic sur la qualité de l'air, il faut vraiment réduire le trafic. Et ça veut dire compenser le trafic par le vélo, la marche à pied, l'intermodalité, se déplacer avec différents moyens d'un point A à un point B, et puis les transports collectifs pourraient être aussi améliorés.
Valérie Pernelet-Joly de l'Agence de sécurité sanitaire avec Sophie Bécherel. L'alerte météo est levée en Corse, mais le bilan est impressionnant. Il est tombé pas moins de 32 mm d'eau en seulement 6 minutes hier à Bastia. Et pendant ce temps-là, sur le continent, la sécheresse s'étend. 61 départements concernés ce matin par des restrictions d'eau. Sur la liste, une vingtaine classées en situation de crise. Quand on parle d'écologie, c'est une info de nos confrères de France Bleu Provence. C'est nouveau. À Marseille, certains ne trouvent rien de mieux à faire que de jeter les trottinettes électriques en libre service dans la mer. Des batteries au lithium qui explosent sous l'eau. On visualise les dégâts sur les poissons ou les baigneurs. Une brigade a été mise en place pour récupérer les engins. Un plongeur explique ainsi en avoir récupéré pas moins d'une trentaine rien qu'en une seule matinée.
France Inter, 8h10, la suite du journal. Hélène Roussel, toujours pas de nouvelles de la chercheuse franco-iranienne Farida Adelra.
On sait depuis hier qu'elle est détenue par Téhéran, arrêtée sans doute au début du mois de juin. La France réclame de pouvoir la rencontrer, pas de réponse pour l'instant. Mais ce n'est pas la première fois que des chercheurs se retrouvent ainsi prisonniers en Iran. Nathanaël Charbonnier.
Il existe un point commun entre ces prisonniers, tous possèdent une double nationalité. Ils seraient une dizaine dans le même cas si l'on en croit certaines ONG des droits de l'homme. La chercheuse Farida Adelra, pour laquelle les autorités françaises se mobilisent, est franco-iranienne. Mais l'on pourrait parler aussi de Nazanin Radcliffe. Cette femme de 41 ans a été arrêtée en 2016 alors qu'elle travaillait pour une association humanitaire. Depuis, elle est emprisonnée pour complot contre le régime. Elle a commencé une grève de la faim il y a quelques semaines pour se faire entendre. Particularité, elle est britanno-iranienne. D'autres histoires similaires existent. Elles concernent par exemple une enseignante irano-canadienne ou encore un citoyen irano-américain. Une double nationalité qui se transforme en vrai handicap pour ces hommes et ces femmes, puisqu'une fois sur le sol iranien, ces personnes deviennent iraniennes, sont traitées comme telles et doivent répondre aux lois de leur pays. Cela rend plus compliqué les pressions pour les faire libérer, mais cela reste pour le régime des mollahs une excellente monnaie d'échange lorsqu'il s'agit de faire monter les enchères diplomatiques.
Et en l'occurrence, avec en toile de fond l'accord sur le nucléaire dont les États-Unis se sont retirés. En tout cas, si les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, ce sera sans les Britanniques. Promesse de Boris Johnson hier soir, le favori pour succéder à Theresa May au poste de Premier ministre en Grande-Bretagne, était en débat, le dernier débat avec son rival Jeremy Hunt. Dans une semaine maintenant, on saura qui des deux s'installera au 10 Downing Street.
C'est un symbole de la réussite à la française qui s'écroule.
La société de production de Luc Besson pourrait bientôt passer sous pavillon américain. Europacor est sous procédure de sauvegarde depuis le 13 mai. Le groupe Pathé, candidat à la reprise, aurait jeté l'éponge. Il faut dire que l'entreprise de Luc Besson accumule les flops et les pertes, avec surtout l'échec en 2017 du film Valérian. Alexandra Akoun.
Enfant chéri du cinéma français des années 90, auréolé de tout un tas de succès.
Victor, nettoyeur.
Luc Besson, lanceur Opacorp en 2000. 11 ans plus tard, le navire commence à prendre l'eau. 30 millions d'euros de pertes, puis 70 millions en 2018. En mai dernier, à déjà près de 88 millions d'euros de déficit, Luc Besson demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et se met en quête d'un repreneur. Fabrice Leclerc, journaliste spécialiste du 7e art à Paris Match.
C'est un entrepreneur. Il fait dans le cinéma français ce que personne d'autre ne fait. Après, oui, il est un peu mégalo, il a la folie des grandeurs. Donc, il a construit la cité du cinéma où il y a beaucoup de plateaux, où il y avait une école de cinéma à un moment. Et puis, il a continué à faire des projets. Et sa société a connu des échecs, comme toutes les sociétés de cinéma en France et même dans le monde.
Le plus cuisant s'appelle
Valérian.
Fresque de science-fiction brouillonne et bruyante, sortie en 2017 au budget pharaonique de 177 millions d'euros.
C'est inédit en France, c'était le plus gros budget d'un film français jamais monté. Et malheureusement, le film n'a pas marché, notamment aux États-Unis, qui était un des marchés essentiels pour ce film, avec la Chine. Oui, c'est vraiment Valérian qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Pour Anna, sortie en France la semaine dernière, Luc Besson est revenu à un budget plus modeste, 30 millions d'euros. Aux États-Unis, après plusieurs semaines d'exploitation, on s'achemine vers un échec commercial.
Notre destin est entre vos mains.
Et l'Algérie prendra-t-elle sa destinée en main? La finale de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, c'est vendredi. L'Algérie face au Sénégal, à événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Le gouvernement algérien a annoncé hier soir avoir mis en place carrément un pont aérien. 28 avions mobilisés pour transporter 4800 fans des Fenech jusqu'au Caire, là où se joue le match. Coup d'œil sur les coureurs du Tour de France. 10e étape hier entre Saint-Flour et Albi. Le maillot jaune toujours sur les épaules du Français Alaphilippe. Mais c'est Thibaut Pinot qui trinque, relégué hier à 1 minute 40. 50 de ses principaux rivaux. Sa chance est passée. Repos bien mérité aujourd'hui avant d'attaquer les Pyrénées. Allez Frédéric, ne vous en déplaise. Et si nous dansions maintenant?
Évidemment.
Pas n'importe quoi, non, du bal musette. Indémonable guinguette. On en trouve encore sur les bords de Marne et elles font le plein, figurez-vous, comme celle de la guinguette de l'Écluse à Neuilly-sur-Marne. Petit cours de musette avec Agera Mohamed, reportage.
C'est Serge. Et je suis danseur de musette depuis plus de 60 ans. J'en ai 78. J'ai commencé à l'adolescence.
Et aujourd'hui encore, Serge va à la guinguette deux fois par semaine.
Premièrement, ça permet d'entretenir le corps. Et en plus de ça, la musique était agréable et ça nous rappelle notre jeunesse.
Une jeunesse marquée par ces belles musettes.
J'allais au bal tous les jours. Je travaillais, j'étais professeur de français à Orléans. Et tous les soirs, je revenais à Paris. Et avec quatre copines, on faisait un bal musette différent.
Et à l'époque, c'était autre chose.
Dans les années 60, c'était énorme. Il y avait des bals à tous les coins de rue. Et puis à l'époque, il y avait de grands orchestres. Deux orchestres pour 2000 personnes d'un côté et pour 1000 personnes de l'autre. Et le fait aussi agréable, c'est qu'à l'époque, toutes les femmes étaient jeunes.
Maintenant, c'est avec une seule femme qu'il vient danser, son épouse. Mais en grand gentleman, Serge me propose un petit cours particulier.
C'est un passo.
Un passo.
C'est sans marche. C'est pam, 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 pam.
Bon, alors comment je suis là?
Pour la danse, il y a quelques progrès à faire. Là, il faut tout démarrer à zéro.
Ça veut dire qu'il faut que je revienne?
Vous faites comme vous voulez. Par contre, il faut que ce soit un plaisir et non pas une obligation.
Comment ne pas perdre la tête, Frédéric?
Ah là
le
là.
Beau temps de la guinguette.
Quand c'est dit avec les yeux. Allez, je vous emmène à Joinville-le-Pont, Hélène.
Ouh,
après la matinale. C'était le journal d'Hélène Roussel.